40 déjà.
Ouais, 40.
Mais vous étiez là depuis le début?
Moi, je suis là magasins. Depuis le début. J'ai cofondé le magasin avec une équipe.
Excellent.
En
super.
78. On a ouvert en 78, puis on a constitué l'équipe en 77.
Une réussite, hein.
Ben, si on peut dire ça, ouais. Ah ouais, ça c'est magnifique, c'est des éventails qui viennent du Burkina. C'est un artisan que j'ai connu ici, mais ça fait longtemps qu'il vient en Europe. Il sillonne l'Europe chaque fois pour vendre ses produits, donc il n'a pas de distributeur. Il a un atelier donc, dans un village du Burkina et les bénéfices, il les utilise pour monter des projets dans leur village. C'est incroyable, incroyable. Il vient avec des valises, des énormes valises. Impressionnant.
On ne va pas forcément, ici au magasin du Monde, chercher des grands importateurs, par exemple.
Ah ben non, c'est tout le contraire. Donc nous, on évite les grands importateurs. On travaille essentiellement avec des petites organisations, enfin petites, c'est relatif, mais quand même petites organisations par rapport à d'autres organisations qui sont énormes. Et les exportateurs exportent pour toute l'Europe.
Ouais, d'accord.
Donc il y a quand même, du débit, mais c'est pas de l'industriel, quoi. C'est encore de l'artisanat.
Est-ce que ça veut dire du coup qu'il n'y a pas la même chose au magasin du Monde à Delémont qu'au magasin du Monde à Porrentruy ou à Seignelay-Légier? Typiquement ça, si c'est quelqu'un que vous connaissez, voilà. Cet éventail.
Alors c'est le cas actuellement, effectivement, parce qu'on avait un dépôt à Lausanne, avant la restructuration d'OS3, qui est notre importateur principal, qui voulait tout regrouper dans ses locaux, puis finalement ça ne s'est pas fait. Donc les dépôts en Suisse alémanique ont été supprimés d'emblée, et le nôtre, on l'a tenu encore quelques années, mais finalement on l'a aussi fermé. Donc avant, c'est vrai qu'on s'approvisionnait à Lausanne. Et maintenant, on doit se débrouiller, chaque magasin doit se débrouiller pour s'approvisionner. Surtout l'artisanat, l'alimentaire, c'est généralement d'OS3, de Claro maintenant, ça s'appelle Claro.
Parce que quand on veut travailler avec des partenaires qui font du commerce équitable, est-ce qu'on a un droit de regard? Est-ce qu'on peut contrôler finalement ce que font nos partenaires?
Non seulement on peut contrôler, mais il y a des chartes qui sont établies. Pour le commerce équitable de l'alimentaire, en tout cas pour la plupart des produits, il y a des labels, le label Max Havelaar ou d'autres labels internationaux, il y en a. Donc on ne peut pas prétendre que, en tout cas dans nos commerces à nous, qu'un produit est commerce équitable sans avoir une charte qui permet de le contrôler, mais c'est pas nous les magasins qui faisons ça. Donc ça, ce sont les importateurs, ce sont eux qui ont des contacts directs avec les producteurs. De plus, nous, on travaille depuis très longtemps avec les mêmes producteurs. Donc ça fait, il y a des producteurs qu'on a pratiquement dès le début. Alter Trade des Philippines avec le sucre, on l'a à peu près depuis le début. Le café de Tanzanie aussi depuis le début, donc depuis 40 ans. Donc ça maintient des contacts permanents. Il y a des gens qui voyagent, il y a des informations qui circulent.
C'est vraiment parce qu'a priori, j'aurais dit 40 ans, hein, ça fait déjà un bel anniversaire. A priori, j'aurais pas dit qu'il y a 40 ans, on avait la même conscience du fair trade qu'aujourd'hui.
Non, on n'avait pas la même conscience. Au départ, on est né dans une mouvance, disons, générale. Hein. Il y avait, premièrement, la conférence des Nations Unies qui avait lancé l'idée d'un trade not aid, du commerce au lieu de l'aide, en 64. Donc ça a démarré en 64. Il y a eu 68, hein, qui a quand même aussi pas mal remué les choses. Après, il y a eu en Suisse, en 70, les églises qui ont publié un document de réflexion sur le mal-développement. C'était la première fois qu'on utilisait ce terme-là. Et nous, on est nés en 64. Et l'idée à cette époque-là, c'était parce qu'il y avait énormément de discours autour du mal-développement, autour des injustices, sur les échanges économiques. Et les gens qui ont voulu faire quelque chose, c'était autour de Genève et Lausanne, ils voulaient faire quelque chose à partir de concret. Donc l'idée, c'était d'utiliser les produits comme support d'information et de sensibilisation. C'était un mouvement politique, hein, c'était pas un mouvement commercial à l'époque. On avait même honte de faire du commerce, on cachait les produits dans des cajots. C'est comme si on s'était... ah ouais, c'était... À Lausanne, c'était... Le premier magasin que j'ai vu, c'est celui de Lausanne. Mais il était bardé d'affiches, de tracts, de pétitions et de je ne sais quoi. Et les produits étaient dans des cajots. Caché. Oui. C'était le café essentiellement.
C'était vraiment une époque militante.
Ah oui, c'était on était des militants, effectivement. Mmh. Et des militants plus ou moins gauchistes.
Mais est-ce que le sens des magasins du Monde, il a changé depuis...
Oui, complètement. Il a changé dans le sens qu'au début, les produits, on y prêtait pas grande attention, c'est-à-dire s'il nous fallait du café pour attirer l'attention des gens sur les problèmes, les problématiques. Par exemple, on vendait du café Combit. me rappelle de ça, de Haïti, mais qui était totalement imbuvable. Et les gens l'achetaient par solidarité, quoi. C'était impressionnant.
Alors quand maintenant on demande de la qualité, on vient plutôt au magasin du monde parce qu'on essaie de chercher quelque chose de plus que ce qu'on trouve dans d'autres magasins.
Exactement. Donc de ce point de vue, ça a totalement changé. Donc on s'est orienté sur la qualité des produits. Parce qu'au début, c'était des magasins toiles d'araignée, comme on les appelait. Hein. C'était, les produits étaient mis n'importe comment, c'était du n'importe quoi, franchement, du point de vue commercial. Après, du point de vue politique, c'est vrai qu'on était au taquet, comme on dit maintenant.